Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs.
Hey, you talking to me?
Vers l'infini et au-delà!
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui, on vous parle jeu de société. C'est le quatrième épisode de ce nouveau format et on explore donc le quatrième univers du site kifim.fr. Ce soir, j'ai avec moi Dr Matt Geek.
Salut.
Chenin.
Salut.
Ok. Monsieur l'ours.
Salut.
Et moi-même, ATLZA. Glenn, tu commences et tu nous présentes Piña Pirata.
Ouais, Piña Pirata, moi je vous propose toujours des jeux de par ma fabuleuse condition de papa avec deux enfants d'âge assez différent, qui ont maintenant 18 ans et 10 ans. Je cherche toujours des jeux voilà, qu'on peut jouer en famille, mais puis un peu comme Chenin, je pense, voilà, on se retrouve un petit peu là-dessus. Donc la Piña Pirata, c'est un jeu de Donald Vaccarino, ça va pas vous dire grand-chose. Il n'a pas fait grand chose d'ailleurs, et l'éditeur c'est Yellow. Ça se joue de 2 à 6 joueurs, et c'est clairement jouable de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans. Et c'est clairement jouable à partir de 7 ans. Une partie ça dure environ 30 minutes, et le jeu coûte 15 euros. Alors d'abord, c'est un jeu de défaut, voilà, autour de l'univers des pirates. Peu d'intérêt à lire le scénario. C'est un jeu de défaut, donc il faut vous débarrasser de votre carte, et cela pendant 4 manches. Et donc il y a tout un bestiaire de pirates, des pingouins pirates, des tigres pirates, des crocos pirates, etc. Les cartes sont très très belles, donc c'est très plaisant de jouer avec. Et tout l'intérêt du jeu réside dans ces 4 manches qui vont en fait être toutes différentes, parce que vous devez réunir 4 morceaux de cartes. Alors je dis 4 manches, mais c'est 4 manches gagnantes. Mm-hmm. Il faut réunir 4 morceaux de cartes pour avoir une carte complète et trouver l'emplacement du trésor, etc. Et donc le jeu se déroule en fait où chacun pose des cartes les uns après les autres, chaque carte plus ou moins étant séparée en deux, donc vous voyez un peu comme un jeu de cartes traditionnel avec des figures, hein, un roi, c'est coupé en deux et vous avez un pirate en haut, un pirate en bas. Et donc le premier joueur pose une carte et il faut que vous ayez soit un des deux personnages de sa carte sur une de vos cartes à vous pour pouvoir enchaîner. Et on se débarrasse de ces cartes le plus vite possible. Enfin, chacun son tour. Et là où ça devient intéressant, c'est que le gagnant de la première manche va tirer une nouvelle tuile. Il va tirer un bout de carte pour créer sa petite carte au trésor. Et à l'arrière de chacune de ces cartes, qui sont au nombre de 40 quand même, il y a une nouvelle règle de jeu. Et il va la choisir, parce qu'il tire 3 tuiles, il choisit parmi celles-ci quelle va être la nouvelle règle pour le tour d'après. Et donc ça peut être par exemple, chaque fois que vous jouez un tigre, vous passez votre jeu à la personne de droite. Et une autre manche se déroule comme ça, et donc quelqu'un d'autre va gagner, et une nouvelle règle va encore arriver.
Elle s'ajoute à la première.
C'est là que ça devient génial, évidemment. Donc, à moins qu'une même personne gagne les 4 manches et auquel cas vous jouez avec 3 nouvelles règles différentes au cours d'une partie, mais quand c'est pas le cas et qu'on joue à 4, on peut vite se retrouver avec 6-7 règles. Mmh. Et ça devient franchement hyper cool parce que ça se joue très facilement, ça se comprend très facilement. Les tuiles sont ainsi faites que tu as le dessin du personnage qui est impacté, donc tu le reconnais très bien parce qu'il a une couleur, il a une forme, il a un truc. Donc quand tu la joues, tu retrouves très vite la règle et tu joues les règles dans l'ordre. Parce que évidemment, parfois ça veut dire vous passez une de vos cartes à l'aveugle à votre truc de gauche. Mais après, tu as une autre règle qui dit vous passez tout votre jeu au mec de droite. Et donc il faut bien faire les choses dans l'ordre parce que parfois, il arrive que il te reste 2 cartes dans les mains, t'en as qu'on a plus qu'une. Mais grâce au hasard des règles du truc qui vient de poser, tu vas faire ça, passer un truc, échanger, machin. Et hop, à la fin du tour, t'as plus de cartes, c'est toi qui as gagné. Et donc pour ça, il faut réussir à anticiper tous les traits que peuvent sortir les règles. Et là, ça devient carrément excellent. Quoi.
Pas mal de hasard quand même.
Ah non, il y a un peu de strat parce que tu as des cartes dans les mains. Donc tu as 8 cartes dans les mains. Et donc c'est toi qui choisis. Tu peux avoir un pirate et une tortue, un pirate et un scarabée, un pirate et un truc. Et c'est toi qui vas décider quel pirate tu vas mettre là. Enfin, quel tigre par exemple. Parce que tu vas peut-être garder celui-là pour un truc d'après parce qu'il va faire une autre règle. Donc il y a quand même vachement de stratégie. Parce que les cartes que tu as dans la main au début, c'est les cartes que tu as dans la main au début. À moins qu'on t'enfile d'autres. Mais il n'y a pas de. Et si tu peux pas jouer, tu pioches. Donc la rejouabilité est énorme. Il n'y a pas deux parties qui se ressemblent, même au cours des manches qui s'enchaînent là. Et, donc, et en plus, tu peux jouer avec tous les âges. Donc j'ai trouvé ça vraiment excellent. J'ai mis, je pense, une très bonne note sur le site.
Alors est-ce que c'est un jeu d'apéro?
C'est un jeu
un jeu d'ambiance.
Tu lui as mis 9.
C'est carrément un jeu d'apéro, ouais. Mais apéro de 30 minutes, tu vois. C'est pas non plus, c'est pas blanc manger coco. Ouais. C'est un peu plus il faut aimer le jeu, c'est pas juste un jeu d'apéro où ah t'as jamais joué à des jeux de société, on va jouer à ça. Oui. Là il y a quand même une petite mécanique, c'est sympa, mais par contre, un autre des gros points forts du truc, c'est que t'expliques les règles en 8 secondes.
Ouais. Et ça me rappelle un autre jeu auquel j'ai joué, le nom m'échappe complètement. Où c'est un jeu où en fait pareil, en fait, tu fais des manches et à chaque manche, pour le jeu complet, il doit falloir une bonne douzaine de manches, et à chaque manche, le vainqueur peut choisir une nouvelle règle et désigner quelqu'un à la table de jeu qui sort le temps qu'il explique la nouvelle règle aux autres. Mmh. Et le mec qui revient,
c'est génial,
doit
ça.
Deviner la nouvelle règle. Donc quand t'as une règle, déjà c'est pas déjà la première règle des fois, enfin faut les trouver les règles parce que c'est compliqué quoi. Et mais quand t'es rendu à 10 manches et qu'il y a 10 règles, et ben pour pas te vautrer, c'est alors si déjà enfin pour pas te vautrer, si en plus t'as perdu 2-3 fois et qu'il te manque voilà, qu'il te manque 3 règles,
ça devient
compliqué. Ouais. Je me demande si c'est pas Time Bomb, mais je suis pas sûr. Donc je retire ce que j'ai dit même tellement je suis pas sûr. Donc ça me rappelle ça. Par contre là, sur ce que je décris, on est sur un jeu d'apéro adulte.
Pour moi, ça, ouais, c'est, tu peux l'avoir dans ta ludothèque, dans ta jeu-tech, parce que tu auras toujours un plaisir très simple à y rejouer avec des gens nouveaux, avec les mêmes. C'est tellement la rejouabilité, elle est importante. Quoi.
Et pour, du coup, pour rebondir sur le style de jeu que tu cherches, il y a un jeu qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui s'appelle Zombie Kids Evolution, qui est un jeu de zombies pour enfants et qui notamment fait parler de lui. Parce qu'en fait, il est, enfin, il y a plusieurs chroniqueurs qui l'ont décrit comme étant hyper jouable avec un gamin de 7 ans et un ado de 13 ans.
Cool, excellent.
Et parce que voilà, tout le monde s'amuse et que même les adultes s'amusent. Donc moi, j'y ai pas joué. C'est un jeu un peu legacy qui évolue tout au fil des parties. À mon avis, okay. Tu devrais te pencher sur la question. Donc on attendra que tu nous reparles dans peut-être dans un prochain épisode.
Ça marche.
Zombie Kids Evolution. Ok, d'accord. Merci, Dr Mad Geek. Christophe, tu nous as amené.
Ouais, je vous ai amené un jeu, mais alors je fais une transition avec ce que tu viens de dire, parce que tu as parlé de Kids Evolution, c'est ça ?
Zombie Kids Evolution.
Zombie Kids Evolution, oui, parce que c'est pas juste l'évolution des kids.
Le jeu de la parentalité.
En fait, ça me fait penser à un jeu aussi qui est sorti pour enfants, qui s'appelle My Little Sight, sorti il y a quelques mois déjà. Et qui
un
est,
jeu WordPress.
un jeu
WordPress.
Alors c'est l'adaptation d'un gros jeu pour adultes et adapté aux plus jeunes, et c'est assez réussi, ça plaît aussi beaucoup aux adultes.
Bah comme exactement dans la lignée de Zombie Kids Evolution, ouais, qui sont des jeux pour adultes adaptés aux enfants. Ouais. Il y a une mode là.
Ouais, il y a une mode.
Mais c'est des bons produits.
Et il y a aussi un jeu dont j'aurais aimé parler, il sera peut-être la prochaine fois, hein, dans un mois. C'est Histoire de peluche. Où ça a été aussi un gros coup de cœur là. C'est.
Mais t'en parleras dans un mois.
J'en parlerai dans un mois.
Mmh. Okay. Mais c'est bien de teaser.
Oui, ouais, on tease.
J'aime bien les teasings.
Je me fie à Christophe, il est capable de teaser en t'expliquant tout le jeu.
Ouais, c'est vrai.
non, là, franchement.
Alors, tu nous as amené.
Alors, je vous ai amené Res Arcana. Là, on est sur du frais là. Parce que c'est sorti il y a pas longtemps. C'est sorti le 15 mars. Mmh. C'est un jeu. J'en ai entendu parler genre 5 jours avant qu'il sorte.
D'accord.
Et d'un seul coup, beaucoup de gens disent vraiment beaucoup de bien de ce jeu sur Internet, sur beaucoup de blogs. Ça m'a un petit peu donné envie. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Et en fait, donc, je l'ai précommandé, je l'ai reçu à peine, il était sorti. J'étais bien content de le recevoir et de le tester. C'est le gros coup de cœur. Je le dis tout de suite, ça, c'est un gros, gros coup de cœur. Je pense que ça va être un des jeux de l'année 2019, un de nos jeux préférés. On l'a testé hier. Alors, Res Arcana de Tom Lehman. C'est pas un gros jeu, c'est pas une grosse boîte, c'est pas très lourd. C'est principalement un jeu de cartes, en fait. On va avoir devant soi, sur la table, on va mettre devant nous des cartes en commun. Ça va être des merveilles, un peu comme dans Seven Wonders. On va avoir aussi des lieux de puissance qui sont beaucoup plus chers et beaucoup plus rares. Et on va se constituer une main. Là, on va se faire un deck personnel avec des cartes visibles dans la main et des cartes qui vont être une pioche. Au total, on a 8 cartes. On n'a pas plus de cartes. Les autres cartes restent dans la boîte. Et on va tirer une carte mage. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que tout se drafte. Donc, que ce soit
les... Faut que t'expliques draft, je pense.
Alors, draft, c'est lorsque tu passes les cartes à ton voisin, de manière à ce que tout le monde puisse avoir le choix et voir ce que les autres ont. Tu prends une carte, tu passes à ton voisin, etc. Donc, ça rend, en général, le draft, c'est, ça peut s'adapter à beaucoup de jeux, même si c'est pas toujours dans les règles. On fait ça parfois avec Terraforming Mars. Ça permet de rendre le jeu plus équilibré et plus stratégique.
Ça permet d'équilibrer les jeux de pioche.
Ouais. Ah, qui est moins de hasard.
Pas du tout la routine.
Alors en fait, la première fois que tu joues, tu fais pas en draft parce que tu essaies de comprendre les règles. Après, quand tu as bien compris le concept, tu le fais en draft. Et il y a vraiment une courbe de progression, une courbe d'apprentissage très forte. J'ai fait qu'une partie, mais déjà avec une seule partie, tu vois toute la finesse que tu peux avoir parce que c'est un jeu qui va vraiment se jouer sur le combo et sur l'opportunité. L'intérêt du jeu, c'est surtout sa tension, en fait. C'est un jeu très court. Une partie, au plus, ça fait une heure. Ça se joue entre 2 et 4 joueurs. Et puis, autre petite chose qui m'a bien plu, c'est les ressources. Au lieu d'avoir le truc classique avec le bois, l'argile, la pierre, comme on a souvent, là, on a... l'or, la vie, la mort, la sérénité et la puissance. Mmh. Ça, je ne connais pas Magic, mais j'ai entendu dire que c'était un système de cartes et de decks et de drafts qui peut faire penser à Magic. J'aime beaucoup le graphisme. J'aime bien le thème magie, heroic fantasy, etc. Et puis j'ai trouvé surtout que c'était vraiment un jeu très équilibré et vraiment enfin dès qu'on a fait une partie on a envie de faire une nouvelle partie quoi. Enfin c'est à un tel point où après ma première partie durant la nuit j'en ai rêvé quoi. Je me suis dit comment j'aurais pu faire mieux ma partie. T'as envie de l'optimiser, t'as envie de faire mieux, t'as envie d'y revenir quoi. Et je suis d'accord avec tous les avis que j'ai pu voir. Vraiment, c'est un, je pense que ça va être un gros carton. Quoi. Ça, c'est pas le jeu qu'on va oublier. Donc, sans hésitation, je lui ai mis un 10.
Eh bien, on essaiera rapidement.
Excellent, ça donne bien envie.
Ouais, moi, je suis le seul truc où je suis un peu sceptique, c'est la boîte. Je trouve peu attrayante.
Un peu sombre, alors elle fait pas très sombre, enfantin.
Des dessins qui ont l'air un peu passés, quoi.
Tu vois,
c'est un peu dommage.
Moins moderne que ce qu'on peut trouver sur d'autres productions maintenant, quoi.
Alors, je suis d'accord, mais c'est assez vite rattrapé par les cartes, en fait.
Par contre, le matos a l'air vraiment assez cool.
Ouais. Ouais. Alors, justement, tu parles du matos. Déjà, un truc qui est bien dans le matos, c'est qu'ils ont prévu le rangement. Ah, et puis, les cartes importantes sont cartonnées. C'est pas des petites cartes fragiles ou quoi que ce soit.
Ouais, ça c'était assez plaisant. Moi.
Les cartes sont vraiment agréables à prendre en main. En plus, je pense qu'il est pas très compliqué à prendre avec soi en voyage, au final.
Ok, d'accord. Bon bah à découvrir. Res Arcana.
Res Arcana.
Qui vient de sortir. Ok, et ben moi j'enchaîne. Donc toi t'as dit que tu t'amenais pas quelque chose de trop gros et. Et pas trop conséquent, donc j'ai amené du lourd, du gros, du très très gros. J'ai amené Spirit Island, donc Spirit Island, un jeu de R, donc je ne sais pas, il a deux prénoms le mec, R. Eric Reus, Reus.
Il est allemand.
Ouais, bah de toute façon, donc édité par Intrafine Games, c'est un coopératif de 1 à 4 joueurs. Pour des parties de 90 à 120 minutes, traduisez des parties de 3h30, bien entendu, à partir de 14 ans.
Alors, traduisez à partir de 26 ans.
Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce jeu ? Alors, en fait, déjà, il faut comprendre pourquoi Spirit Island ? L'auteur, en fait, il a constaté un truc, c'est que dans, pas tous, mais dans beaucoup de jeux de société, on est des colons et on va aller découvrir un nouveau monde, s'installer, machin et tout, type colon de Catane, Puerto Rico, tout ce que vous voulez. Et donc voilà, c'est un thème qui est assez universel dans le jeu de société. Et lui, il dit, putain, mais en fait, à chaque fois, on va coloniser un lieu et donc on va forcément détruire quelque chose qui est en place. Et ce thème-là, particulièrement, n'a pas été abordé. Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, il est parti du thème pour mettre dessus une mécanique. Sauf que, alors à partir de là, donc thème original. À partir de là, également, on est dans du gros jeu de gestion. Donc, gros jeu de gestion, hein, quand on commence à taper dans les trois genres de jeux. Et il a voulu en faire un collaboratif. Alors, il faut savoir que le collaboratif et le gros jeu de gestion, c'est assez antinomique. et que, en général, les gros joueurs de jeux de gestion n'aiment pas le collaboratif. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, parce que moi, j'adore les jeux de gestion et j'adore le collaboratif, donc ce jeu était fait pour moi, donc j'ai sauté dessus, sur ce gros bébé, quoi. Donc, on va incarner, en fait, donc on a voilà, une île qui est peuplée d'autochtones, et on va pas incarner les autochtones, on va incarner les esprits de l'île, et en fait... On est, en tant qu'esprit de l'île, on n'est pas tout à fait les dieux de l'autochtone. C'est-à-dire que les autochtones, c'est plutôt une population qu'on a acceptée, et eux, ils nous ont acceptés, on arrive à vivre en cohabitation avec eux. On va en fait essayer de travailler en collaboration avec les autochtones pour contrer ces nouveaux envahisseurs, qui sont des colons classiques, qui vont venir sur l'île, l'explorer, y installer des villages, qui vont transformer en ville, et après ils vont explorer autour de ces villes, ils vont ravager la forêt, etc. Et au bout d'un moment, ils ont détruit l'île. On a perdu, quoi. Donc,
c'est une parabole sur l'écologie, en fait.
Ouais, mais ça te plairait, tu vois. Donc c'est un jeu qui a été nominé pour l'As d'Or, qu'il a expert, qu'il a pas gagné, et ce que je comprends tout à fait, parce qu'on est vraiment dans du gros jeu expert, avec des tonnes de ressources, des plateaux, de machins. C'est pas hyper abordable. Par exemple, le meilleur exemple, c'est le livret de règles. Donc là, je vous sors un petit pavé de livret de règles de 31 pages, écrit tout petit.
Mais le monde et du jeu évolue vers les règles.
Et il y en a dans tous les sens. Donc lire les règles, c'est un casse-tête chinois. Et c'est très con parce que moi, ça m'a pris, je sais pas, ça a dû me prendre plus d'un mois pour lire les règles et comprendre ce qui en découlait. Non. Mais alors qu'au final, je pense que maintenant, je suis en mesure d'expliquer le jeu en 10 minutes, 15 minutes à quelqu'un. On n'est pas après dans un jeu où qu'on va expliquer durant 45 minutes, 1 heure pour une partie de 3 heures. Il va s'expliquer assez vite et il va se mettre en œuvre assez facilement. Et donc, la grosse réussite de ce jeu-là, bah, c'est que d'avoir réussi à convaincre, en fait, et d'avoir réussi à lier la gestion et le coopératif, parce qu'on est vraiment... on a besoin de se prendre la tête, on a besoin de développer nos pouvoirs, mais on ne peut pas, si on développe nos pouvoirs, les utiliser non plus, tu vois. Donc, chaque esprit va essayer de travailler ses points forts, tout en travaillant, en discutant avec les autres, parce que si toi, tu fais ça, moi, je peux peut-être faire ça, du coup, si on le fait ensemble, ça peut faire ça. Mais il y a quand même beaucoup de choses à gérer parce que bah, je ne peux pas vous sortir toutes les fiches. Mais c'est vraiment, vraiment conséquent, quoi.
Est-ce que c'est dur ?
Alors, c'est censé être très dur. Mais nous, on a gagné la première partie. Mais je pense qu'on s'est gouré. je pense qu'on s'est un peu facilité la tâche des fois. Mais par contre,
on oublie toujours des points de règles.
Mais c'est pas le problème. Dans un jeu de société, le problème, c'est pas de se tromper sur les règles. L'important, c'est que tout le monde joue avec les mêmes règles. Donc
oui,
nous, on a gagné.
C'est collaboratif.
Non,
on gagne facilement parce qu'on a oublié.
Mais on n'a pas gagné facilement. C'est ça le truc. On a gagné, on n'a pas gagné facilement. De fait, on a peut-être perdu d'ailleurs. Peu importe. Enfin, c'était tendu. Tu vois, je suis pas capable de te dire un mois après la partie si j'ai gagné ou si j'ai perdu parce que pendant 3 heures, j'étais plongé sur un truc et le résultat final était de toute façon. Enfin, tu sais pas si tu gagnes, si tu vas gagner ou si tu vas perdre. Ta partie, elle est pas gâchée hyper tôt, quoi. Donc voilà, faut vraiment aimer les jeux de gestion, ça c'est important, et savoir qu'on va passer 3 heures autour de la table. Aimer le collaboratif, et ben c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que vous êtes fan de gros jeux de gestion, vous n'êtes pas fan de collaboratif, et ben là vous avez un super outil pour convaincre les gens qu'il y a des trucs à faire en collab, et les mecs ils ont réussi à innover dans l'univers collaboratif. Donc voilà, c'est un jeu qui est relativement cher, mais ils ont fait un truc qui est... Enfin, qui est franchement... j'ai plus le prix en tête, mais à mon avis, il doit bien valoir entre 60 et 70 euros, je pense. Ils ont fait un truc qui est assez excellent, c'est que le jeu... déjà, des esprits, il y en a une bonne dizaine, je pense. Donc, le temps que tout le monde ait joué, enfin, avec tous les esprits et tout, c'est une durée de vie qui est hyper conséquente. Surtout qu'ils disent bien, les premières parties, vous prenez ces esprits-là parce qu'ils sont faciles. Et après, vous prenez ces esprits-là. Et après, ceux-là, parce que ceux-là, ils sont durs à jouer. Ils sont peut-être plus puissants, mais ils vont être beaucoup plus durs à amener. Donc, c'est pour des joueurs experts. Donc, les mecs, ils ont déjà amené une durée de vie dans leur jeu qui est conséquente. Sachant qu'en plus, à chaque partie, l'île que vous gérez, selon le nombre de joueurs et selon la disposition des tuiles que vous mettez, vous allez pouvoir créer quasiment une infinité d'îles. Donc chaque partie de base est différente et on a une bonne durée de vie. Mais en plus, les mecs, ils ont proposé dans la règle, je crois qu'il y a 3 ou 4 variantes de base. Alors variante un joueur, deux joueurs, variante vous jouez avec ces cartes-là, vous jouez pas avec ces cartes-là, pour que tu redonnes de la vie à ton jeu. Et en plus, les mecs, ils ont créé des scénarios pour que les objectifs changent. Alors, je ne les ai pas du tout encore explorés, mais ce truc doit avoir une durée de vie
est énorme. Bon. Parce que, enfin, un jeu de 3h30, les gars, si vous arrivez à le sortir 4 fois dans l'année, vous êtes contents.
Ouais.
Alors moi, je pense qu'il y a tout à fait moyen de le sortir 4 fois dans l'année sans jamais prendre une variante ou un scénario. Mmh, donc là, on est sur un objet qui a une durée de vie hyper longue.
Tes petits-enfants te diront « Mais t'as jamais fait tel scénario ?»
Bah ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu hors norme sur plein de choses.
Est-ce que c'est hors norme sur le prix ?
Bah, je dis 60-70 euros. Maintenant, sur les gros jeux de gestion, on est sur ces tarifs-là. C'est normal.
Ouais. Est-ce que tu peux jouer seul ?
Tu peux jouer seul, j'ai pas essayé.
Il y a un
mode 1 à 4 joueurs, je t'ai dit. Je sais pas comment il marche.
Ah oui, c'est intéressant.
Pour jouer.
C'est à la mode aussi.
Pour apprendre le jeu, j'ai joué tout seul, mais j'ai simulé un deuxième joueur.
Quel simulateur, hein.
Bah, c'est comme ça qu'on a. Pour apprendre un gros jeu, je fais une partie tout seul à plusieurs. Moi et mes, tu vois, et dans toi, ma tête, moi et mes plusieurs.
Alors on est sur des opposés en fait, hein. C'est des jeux de gamers, mais en même temps c'est pas du tout...
Ah bah ouais, bah là, ça c'est la soirée jeu que tu planifies avec tes potes
ouais.
À l'avance. Bah, nous, quand on l'a joué la première fois, c'est exactement ça, on a fixé une date et on savait qu'on allait jouer à ça. Et moi, il fallait que j'ai lu les règles et tout pour cette date-là, quoi.
Ouais, tu décides toi derrière.
Et voilà, et ça nous a pris ta chose.
Mais c'est ça qui est difficile. Moi, j'aime bien ce genre de jeu exigeant, mais
c'est dur à mettre en place.
C'est dur de trouver le temps, les gens qui ont compris, qui veulent.
Bah alors, voilà,
s'il y a des gros joueurs dans la région rennaise, hein, peut-être ils peuvent nous contacter via Kifim et puis. Pour organiser des trucs.
Bah là, moi j'ai trouvé une technique. J'ai 2-3 potes là qui sont. On est fans que de gros jeux et on se cale une date tous les 5-6 semaines. On sait déjà d'une date sur l'autre quel gros jeu on va sortir. Et voilà, c'est soirée gros jeu. On s'embête pas. C'est pas la soirée jeu où on dit à tous nos potes de venir en mode venez parce que là tu te retrouves à faire des petits jeux. Là, c'est vraiment ok. On va sortir Spirit Island. Voilà. Donc voilà.
Alors, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous faites Res Arcana. Et vous avez un gros budget, vous faites Spirit Island.
Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous faites un Celestia. Mais ça, j'en ai déjà parlé.
Ah non.
Bon, super. Moi, tout ça me donne envie.
Ouais. Glenn,
ouais.
C'est toi qui va
conclure
la partie jeu en nous parlant d'un sujet un peu Reno-Rennais.
Ouais, un peu Reno-Rennais. Ouais,
t'as bien conclu.
Mais et tu vas nous parler de nos amis de l'heure du jeu et de leur offre, je sais pas comment on dit, leur service.
Bah ouais, parce que j'ai eu l'occasion là, très récemment de tester avec mes enfants. Voilà ce qu'ils ont ouvert juste à côté de l'heure du jeu qui s'appelle Le Quart d'heure et qui propose pour l'instant 3 scénarios. Donc pour l'instant, on en a testé un qui est le scénario du labo et j'étais complètement bluffé en fait. C'est à mi-chemin entre l'escape game et le test de compétences neuro-psycho-linguistico, tout ce que tu veux. Et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et là pour le coup, tu te retrouves dans une salle à 4, il faut être 4.
D'accord.
Ça, il faut être 4 pour.
En tout cas, avec deux enfants.
Ouais, j'étais avec une quatrième personne. Et donc chacun est dos à dos. Et puis la salle est séparée par un petit rideau après qu'il t'ait expliqué les règles pour que les autres qui sont dos à dos également ne voient pas l'écran que chacun a devant soi.
D'accord.
Et tu vas jouer pendant 15 minutes, quart d'heure, hein, un quart d'heure. Tu vas jouer pendant 15 minutes, mais c'est 15 minutes à fond, sur une série de mini-jeux en fait. Et tout l'intérêt du truc, c'est que. C'est coopératif, tout le temps, mais que tout le monde ne voit pas les mêmes choses sur son écran. Et donc, tu as plusieurs jeux, comme par exemple des labyrinthes, bah, tu as une personne qui a la flèche du haut, une personne qui a la flèche de droite, une personne qui a la flèche du bas, etc. Et chacun ne voit pas les mêmes choses dans le labyrinthe. Donc, tu es en train de dire, ouais, là, moi, je vois une clé, faut descendre, tuk tuk. Alors, celui qui a la clé, non, trop. Et tu as un certain nombre de déplacements auxquels tu as droit, bien sûr. Tu as un jeu où il faut que. Tu sais, ces tableaux où il y a 2 points jaunes, 2 points rouges, 2 points verts, 2 points bleus, et tu dois relier chacun sans qu'aucun se croise. Donc c'est vachement dur parce que chacun a envie de faire son
truc. En fait, tu fais travailler les cerveaux, quoi.
Tu fais à fond travailler les cerveaux, il y a des trucs de mémoire, il y a des trucs de logique, il y a des trucs de rapidité, il y a des trucs de trucs. Et alors en plus, ce qui est génial, chez nous, ça a très très bien marché. Je doute pas du fait que ça peut arriver que tu aies une équipe qui dysfonctionne complètement pour X raisons. Mais ce qui est vachement cool aussi avec le quart d'heure, c'est qu'il y a des scorings. Donc tu t'enregistres. Et puis, bah, y a ton score dans le bar, comme au Space Laser, tu vois, tu ressors avec un score. Et qui est un peu. En plus, ça marche très bien avec le scénario, puisqu'ils te disent au départ, on va tester vos capacités à rejoindre l'équipe, truc, machin. Et donc, à la fin, tu as une sorte de degré de réussite, et tu es admis ou pas admis, quoi. Pour le coup, depuis que ça existe, ils n'ont que 3 équipes qui ont été dans la partie admise.
Et alors ?
Nous, on a frôlé le truc, là.
Mais
tu vois en fait en rapidité, intensité, logique, truc machin. Ton
mais
degré...
Est-ce que ça se joue à 4 ou 2 par 2 ?
Non, ça se joue à 4.
À 4.
Ah, c'est à 4, ouais. Tous les mini-jeux là sont pour 4. Et puis du coup, bah.
Franchement, on était tous ravis. Tous ravis, on a passé un super moment. C'est pas cher. Du coup, très envie de retourner faire les deux autres scénarios.
Pas cher, c'est-à-dire
Moi, j'avais une entrée, donc je me souviens que c'est pas cher. je trouverai les prix la prochaine fois.
Voilà.
Non, mais c'est très. Enfin, par rapport à. Je crois que c'est 5 euros, un truc comme ça, tu vois, mais par rapport
par
au. Ouais, par personne, ouais. Mais 5 euros, 15 minutes, quoi. Voilà.
C'est marrant parce que ce que tu viens de décrire, c'est exactement ce que j'avais. Le jeu que j'avais expliqué ici une fois, Bayam. C'est un jeu où chacun a sa BD et doit décrire ce qu'il voit aux autres.
Ah, alors c'est pas exactement, on va pas exagérer.
Oui, j'exagère un peu, mais c'est très proche dans l'idée, c'est-à-dire collaboratif à quatre.
Moi j'adore.
Et on voit pas ce que les autres voient.
Alors, si vous voulez en apprendre plus sur spécifiquement le quart de jeu, mais le quart d'heure, mais en plus sur du jeu, un peu de pub pour le podcast Proxy Jeux. Qui est donc un podcast dédié aux jeux de société, épisode 102, ils ont reçu en fait les créateurs de l'heure du jeu, et dedans ils présentent le quart de jeu, donc là il y a vraiment...
Le quart d'heure,
donc il y a vraiment moyen d'en apprendre plus, un peu sur la démarche, d'où ça vient, parce qu'en fait c'est pas un système de jeu qu'ils ont créé, je crois que c'est à Nantes qu'il y a une boutique qui faisait déjà ça, et c'était les seuls, donc eux ils ont voulu faire quelque chose d'un peu similaire, ils ont proposé à ceux de Nantes de s'associer pour... développer le truc ensemble, les mecs dedans ont dit non, donc ils y ont été tout seuls, donc ils expliquent bien que c'est un truc qui est vachement work in progress aussi, quoi. Ils n'ont pas les moyens techniques de faire tout ce qu'ils voudraient faire dedans,
mais ça va venir très vite parce
et donc voilà, et c'est effectivement un principe qui est complètement nouveau, et tu as bien fait de le préciser, ce n'est pas de l'escape game.
Ce n'est pas de l'escape game parce qu'on
peut penser
par rapport à, par rapport à l'extérieur, on pourrait penser ça.
Il n'y a pas de décoration dans les salles.
Non, pas du tout. C'est une sobriété hallucinante. Mais
et puis c'est important de préciser que c'est dans l'ancien sex shop de Rennes quand même.
J'étais vachement bluffé.
Ils ont nettoyé.
J'ai été bluffé par la qualité des énigmes, des défis proposés, par le rendu graphique proposé. Alors on n'est pas non plus dans une interface Star Trek, Space, machin, tout milieu. Mais c'est hyper quali et un truc qui n'est pas. Dans une moindre mesure à ne pas négliger, c'est la réactivité du matériel. Parce qu'un truc comme ça est complètement gâché si tu te retrouves avec une latence ou un truc machin. Là, ça marche du feu de Dieu, c'est hyper bien pensé, tout le monde t'entend, t'as quand même un casque sur les oreilles pour entendre, parce que t'as quand même une voix très Alexa.
C'est un sacré pari qu'ils ont fait, parce que les mecs, ils ont donc acheté, ils ont acheté le pas de porte du local d'à côté, donc qui était donc un sex shop, ils l'ont refait pour y proposer un service qui n'existe pas et n'est pas connu. Donc, alors que c'est à la base un bar de jeu, qui est comme dans un espace un petit peu restreint, c'est vrai que moi au début, quand j'ai su qu'ils reprenaient le local d'à côté, je me suis dit, putain c'est cool, ils vont doubler la surface et tout, et non, ils proposent un nouveau service, ils prennent un pari, sur un truc ludique différent, donc on leur souhaite.
Mais d'ailleurs, l'heure du jeu a vachement évolué. C'est un endroit que je fréquente depuis qu'il a ouvert. Ils ont vachement évolué dans leur façon de faire, et je pense que c'est un lieu dont il faut faire la publicité. Donc pour les Rennais qui nous écoutent, parce que c'est hyper convivial. Et puis maintenant, quand t'arrives, ils commencent par te dire qu'est-ce que vous voulez boire. Et en gros, tu peux pas trop répondre rien, quoi. Ce qui est tout à fait normal.
C'est également un bar à cocktails.
Oui,
ils ont une offre de cocktails.
Non, alors d'abord, la carte de cocktail est géniale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment comprendre que ces gens-là, leur business model...
C'est le débit de boisson.
Ils sont en train de t'offrir. Ils ont une ludothèque complètement gigantesque.
Ils font énormément de quiz, de blind tests, de soirées thématiques.
Ils donnent beaucoup de leur temps, parce que les mecs, ils sont là pour te servir, mais ils sont là pour t'expliquer les jeux, pour aller te les chercher, pour les ranger, etc., pour te faire à manger. Et donc, la moindre des choses, évidemment, c'est quand tu arrives, c'est que tu commences par dire, voilà, nous, on boit ça. Puis pendant que le mec est en train de faire tes trucs, là, tu commences à lire tes règles du jeu, quoi.
Ce que je vous disais, pour ça, franchement, écoutez justement le podcast de Proxy Jeux, puis ils ont inventé donc les prénoms échappent, mais celui qui tient le bar, son mec, en fait, avec qui il l'a lancé, mais qui lui est plutôt le comptable et tout du bar. Du coup, ces deux approches, ils expliquent un peu comment ils ont lancé. Enfin, t'as toute la genèse du truc, un peu les réussites, les échecs et tout. Enfin, c'est vraiment un épisode. Par contre, on est sur des podcasts à 2-3 heures, encore une fois, vous savez que j'aime bien ça, quoi. Donc voilà, pour les Rennais, à découvrir de toute urgence.
Absolument.
L'heure de jeu et le quart d'heure, que je dis sans me tromper.
Super.
Merci beaucoup, on se retrouve dans quelques semaines et on recommencera avec
salut
les films.
Salut à tous,
salut.
Ciao.